Chapitre 17. Ils sont seuls sur l'aire de service de camping-car en ce début de mois d'octobre. Les derniers vacanciers ont abandonné les routes et les paysages pour un toit et des radiateurs bien chauds. Pour Johan et Émile, c'est justement le moment de repartir. Ils ont tourné une heure dans les villages aux alentours des Houzes pour trouver une aire de service. Poc est sagement installé sur la banquette en bas. Johan est emmitouflé dans un grand manteau noir. La question du chauffage commence à se poser.
Un chauffage d'appoint à gaz ?
Avance timidement Johan. Ils tiennent tous les deux le réservoir d'eau qui est en train de se remplir lentement. Ils sont balayés par un vent frais.
Ouais, comme ça, même si on n'a pas de raccordement électrique, on ne mourra pas de froid.
Ils ont convenu qu'ils ne passeraient pas l'hiver dans ce camping-car, seulement une partie de l'automne. Quand il fera trop froid, ils logeront chez l'habitant. Ils passeront aussi probablement quelque temps chez Myrtille. Elle a lourdement insisté là-dessus au moment de leur dire au revoir. Elle avait le regard bleu dur, comme pour ne surtout pas révéler la tristesse qui l'étreignait.
« Je compte sur vous pour revenir me voir à Noël !»
Johan lui a laissé son numéro de téléphone et elle a pris le sien. Ils ont quitté la maisonnette en lui faisant de grands signes de main. Poc était dans les bras de Johan. Canaille les a regardés partir, le dos rond. Il s'attelle maintenant à vider le bac des toilettes chimiques.
Ça n'est pas le plus plaisant. Et il va nous falloir une nouvelle bouteille de gaz pour le réchaud. Et faire quelques courses.
On s'en occupe cet après-midi ?
Ensuite, ils seront prêts pour reprendre l'aventure. Après une journée passée dans les grandes surfaces à Prades, ils reprennent la route encore plus chargée qu'ils ne l'étaient. Le réfrigérateur est plein. Une petite caisse à litière a été achetée pour Poc, ainsi qu'une dizaine de sacs de croquettes et de litière d'avance. Johan a tenu à lui offrir une petite panière pour qu'il puisse y dormir au chaud. Ils ont fait l'acquisition d'un chauffage d'appoint au gaz, portable, et de bouteilles de gaz. Cette fois, ils sont parés pour plusieurs semaines. Ils reprennent la route alors que le tableau de bord indique déjà 16 heures. Ils n'ont pas vraiment d'idée du lieu où ils se rendent. Émile a vaguement l'intention de repartir en direction des Pyrénées catalanes, car en se rendant à Éousse, ils ont fini par s'en éloigner. Il se tourne quand même vers Johan afin d'obtenir son approbation.
On repart dans les Pyrénées catalanes ?
Elle a déplié la grande carte sur ses genoux et elle ne lui répond pas tout de suite, car elle est concentrée.
Johan ?
Oui ?
Elle relève son visage vers lui et elle ne le laisse pas parler. Elle pointe du doigt un point sur la carte.
Regarde, on est là.
Elle lui désigne Prades, la ville dans laquelle ils ont fait leur course.
On est tout près de la mer ?
Elle fait glisser son doigt jusqu'à la côte méditerranéenne, où l'on trouve des petits points qui correspondent aux villes d'Argelès-sur-Mer et de Collioure.
Ouais, effectivement, on s'est pas mal déporté à l'est.
Elle reste un instant silencieuse, refaisant le trajet Prades-Argelès-sur-Mer du bout du doigt.
On pourrait...
Elle lève un regard plein d'appréhension vers lui.
On pourrait faire un crochet par la mer ?
Elle ajoute avec précipitation.
Je n'ai jamais vu rien d'autre que la Manche.
Il songe qu'il n'a rien vu venir. Une jeune fille est montée dans ce camping-car avec ce regard absent et cette indifférence quant à son sort. Quand il lui a dit
« Pour l'itinéraire, on s'est pas mis d'accord »,
elle a haussé les épaules et déclaré
« Ça n'a pas d'importance pour moi ».
Ça l'avait glacé d'effroi. Aujourd'hui, cette même jeune fille se plonge avec concentration dans la lecture de la carte et elle voudrait voir la mer. C'est fantastique. Il ne sait pas si c'est lui qui a fait ça, qui a réussi à lui redonner un peu de goût à la vie, ou si c'est Myrtille, les montagnes, Poc, les vieux clochers, les ruelles pavées.
Bien sûr.
Elle a l'air satisfaite. Elle replie la carte et la lisse sur ses genoux.
On fonce tout droit, alors ?
Ouais.
Elle sourit en regardant la route. Il s'arrête dans une station-service au niveau de Perpignan afin de refaire le plein. Johan s'éclipse aux toilettes. Le plein est terminé. Johan n'est toujours pas revenu, alors Émile finit par gagner l'intérieur de la station-service pour s'acheter un café. Il est déjà 17 heures. La journée a filé à toute allure. Il fera peut-être nuit quand ils atteindront la côte. Il s'approche du distributeur de café en fouillant dans sa poche de jean à la recherche de monnaie. Une fois que les pièces ont été introduites dans le distributeur et que son café coule dans le gobelet, il relève la tête car il reconnaît la voix de Johan. Elle est à 3 mètres de lui en compagnie d'un homme. Tout d'abord, il sent un poids tomber au fond de son estomac, car la première chose à laquelle il pense est « c'est Léon ». Ça s'impose à lui comme une évidence. Ce ne peut être que Léon. Il l'a retrouvé. Comment a-t-il fait ?
Monsieur ?
Une dame s'adresse à lui un peu impatiente.
Vous avez fini avec le distributeur ?
Il se reprend et récupère son gobelet de café en bredouillant.
Ouais, désolé.
Il fait quelques pas avec lourdeur, essayant d'écouter ce que Johan et l'homme se disent. Il a toujours les poumons comprimés. Il songe, que va-t-il se passer maintenant ? Elle va repartir avec lui ?
Non, ça n'a vraiment rien d'authentique, dit l'homme en secouant la tête.
Non ?
Non, c'est vraiment touristique. Pour trouver d'authentiques villages de pêcheurs, je vous suggère de remonter plus haut.
Émile fait presque tomber son gobelet de café en comprenant qu'il ne s'agit pas de Léon, mais d'un parfait inconnu qui a engagé la conversation avec Johan pour il ne sait quelle raison.
Si vous remontez à proximité de Narbonne, vous trouverez un immense système lagunaire en bordure de la Méditerranée. Tout autour de ces étangs, vous trouverez de charmants petits villages. Périac de Mer, Bage, Gruissant. Ce sont ceux que je connais le mieux.
L'homme remonte ses lunettes sur son nez et Émile en profite pour l'observer sans être vu. C'est un type qui a la trentaine, peut-être un peu plus. 34, 35. Un type un peu ringard, avec un look de professeur des écoles. Un pantalon en velours côtelé beige, un pull en V d'un affreux vert olive duquel dépasse le col d'une chemise blanche. Les lunettes rondes, l'arrêt bien tracé au milieu. Johan est en train de le remercier pour les informations.
C'est vraiment gentil à vous.
Je vous en prie, on n'a pas tous envie de plage bétonnée.
Ils s'esclavent tous les deux et Émile se demande soudain si l'homme n'est pas en train de draguer Johan. Il en étouffe un ricanement moqueur derrière son gobelet. Pauvre Johan, un plouc pareil. Puis il réalise qu'il est d'une méchanceté gratuite. Mais tout de même, ce type aurait dû voir l'alliance au bout du doigt de Johan. Enfin, si elle la porte toujours. Il essaie de plisser les yeux pour apercevoir l'anneau argenté et il se rend compte qu'elle ne l'a plus. Parfois elle la porte, parfois non. C'est au gré de ses humeurs ou au gré de ses oublis sur le rebord du lavabo. Lui, il ne l'enlève pas. Vu l'état actuel de sa mémoire, il serait capable de la perdre à tout jamais. Ce serait dommage, ça leur fait un souvenir. Quand il la voit à son doigt, il se souvient du pacte qu'ils ont passé. C'est rassurant. Il essaie d'avaler son café brûlant le plus vite possible, car l'homme et Johan sont en train de se quitter. Ils échangent encore quelques mots et des sourires un peu niais, puis l'homme s'éloigne en replaçant ses lunettes rondes sur son nez. Johan ressort du bâtiment sans le voir. Il se dépêche de lui emboîter le pas.
Johan !
Elle se retourne, surprise. Il jette son gobelet dans une poubelle du parking et la rejoint à grands pas. Il se demande si elle va lui parler de ce type. Et si elle ne le fait pas, comment elle va lui suggérer l'idée d'aller plus au nord en direction de Narbonne ? Il essaie de masquer le sourire d'amusement qui naît sur son visage.
« On repart ?»
lance-t-il en ouvrant la portière du camping-car. Elle monte en silence du côté passager. Il met la clé dans le contact et elle se trémousse sur son siège. Elle va y venir.
« On m'a parlé d'un coin sympa, » lâche-t-elle, « au bord de la Méditerranée. » Un ensemble d'étangs bordé de villages de pêcheurs typiques.
Elle n'a pas le regard spécialement fuyant, mais il note l'utilisation du « on » pour éviter de dire qu'elle a sympathisé avec un homme. Est-elle gênée ? Parfois, elle ressemble vraiment à une petite fille. Les kilomètres défilent en direction des lagons. Le ciel s'assombrit. Johan a mis la radio. Elle semble somnoler contre la vitre. Il ne peut s'empêcher de s'interroger. Pourquoi elle n'a pas mentionné l'homme aux lunettes ? Puis, plus loin sur la route, une interrogation incrédule. Est-ce qu'il lui plaisait ? Il revoit son affreux pantalon en velours côtelé et son pull col V couleur olive. Tout de même.
Johan ?
Elle se redresse doucement. Elle a laissé une trace de buée contre la vitre.
On arrive ?
Demande-t-elle d'une petite voix.
Ouais, on arrive. « Quelle ville je dois suivre ? »
Elle scrute les panneaux. Cette fois, il fait sombre dehors. Il est 19h.
Périac de mer. Il m'en a parlé, tu peux suivre cette direction.
Elle a laissé échapper le « il ». Au fond, cherchait-elle vraiment à lui cacher cette discussion banale avec l'inconnu? N'est-ce pas lui qui en fait tout un flanc?
Johan?
Oui?
Elle scrute les paysages alentour. On ne voit pas grand-chose. La nuit tombe.
Il faisait quoi comme métier, Léon?
Elle a la voix extrêmement tendue quand elle répond.
Pourquoi?
Il ne peut pas voir son visage dans l'habitacle. Il fait trop sombre.
Ben, je me demandais si tu l'avais connu dans une école où tu travaillais.
Elle se racle la gorge et se renfonce dans son siège.
Ouais, c'est le cas. Il était professeur des écoles.
Il fait un effort surhumain pour masquer le sourire amusé qui naît sur ses lèvres. Il sent un rire monter dans sa poitrine, mais il tousse pour le chasser. Il essaie de se concentrer sur la route, mais il ne peut s'empêcher de penser « C'est donc ça, elle aime les velours côtelés et les raies au milieu. » Il va devoir être prudent. Les vacances de la Toussaint approchent. S'il n'y prend pas garde sur une aire d'autoroute, elle risque de le larguer pour un prof en vacances scolaires. Cette fois-ci, il ne peut retenir son rire. Heureusement, Johan s'est de nouveau assoupi contre la vitre. Il fait trop sombre quand ils arrivent aux abords de Périac-sur-Mer pour réellement profiter de la vue. Il distingue la ville au loin grâce à ses lumières et les lagons d'eau salée qui s'étendent à leur droite le long de la route. Sur le bas-côté, Émile aperçoit un renfoncement, un petit terre-plein sur lequel ont été installées deux tables de pique-nique.
« On pourrait se garer ici pour la nuit », suggère-t-il.
Johan hoche la tête.
« On partira à la découverte du village demain. »
« Ça me va. »
Il stationne le véhicule sur le terre-plein et coupe le moteur. Johan ouvre sa portière et une odeur d'eau salée envahit tout l'habitacle. Une odeur de mer. Il revoit le bungalow que ses parents louaient chaque été non loin de Valras-Plage. Marjorie et lui dormaient dans un lit à étage. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu la mer. Presque 2 ans. C'est peu, mais ça lui semble une éternité. C'était Laura qui adorait improviser des week-ends à la mer. Il dormait dans la voiture alors. Il rabattait les sièges et il s'enroulait dans des duvets.
J'adore cette odeur,
déclare Johan en plissant le nez. Il l'imite et sort du véhicule. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à Eos. Maintenant qu'il fait nuit, il fait trop frais pour dîner dehors, mais il est persuadé qu'en journée, c'est tout à fait possible. Émile entend un miaulement. Il aperçoit Johan qui ouvre la porte à Poc et le chaton qui avance avec prudence, un peu méfiant.
« Alors, Poc, tu aimes l'air marin? T'y es pas habitué encore ?»
Émile traverse le terre-plein puis la route. De l'autre côté s'étend un immense lagon. Il aperçoit des formes au loin, sans doute des flamants roses. Il plisse les yeux puis appelle.
« Johan! Johan, viens voir !»
Elle le rejoint quelques secondes plus tard, Poc dans les bras.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
On dirait qu'il y a un ponton là-bas. »
Ils plissent les yeux tous les deux. À une centaine de mètres d'eux, un ponton en bois semble s'avancer dans le lagon et se poursuivre à l'infini.
« Il est immense, non ?»«
Ouais. » »«
On dirait qu'il n'a pas de fin. »
Ils en restent là dans leurs interrogations, car le camping-car est resté ouvert et Poc pousse des miaulements de protestation.
« Je meurs de faim, » déclare Johan.